Hello, c'est Romain de 6ème Science, une petite pub, et on est prêt à envoyer de la science dans tous les sens.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eureka! De la découverte d'Archimède, on se souvient de l'expression, mais aussi des circonstances particulières qui l'ont rendu possible. Le copain grec a découvert la poussée qui prendra son nom pendant qu'il se la coulait douce dans son bain. Ce qui veut dire qu'à l'Antiquité déjà, nos ancêtres avaient une certaine idée de l'hygiène, mais aussi de l'eau. Alors que rien, absolument rien dans notre génétique ne fait de nous des créatures aquatiques. Pas de branchies ni de mains palmées, encore moins de triples paupières comme chez les crocodiles, et pourtant nous voilà des milliers chaque été à piquer une tête dans le bleu de la Côte d'Azur, les rivières Cévenoles ou les vagues de Bretagne pour les moins frileux. Comment est née cette attirance pour l'eau ? Avec Coralie Lemke de Science et Avenir, je vous propose de partir à la recherche du baigneur zéro. Il n'a pas inventé l'eau chaude, il a fait bien mieux puisqu'il s'est jeté à l'eau littéralement. Il y a des centaines de milliers d'années, cet Homo sapiens a affronté sa peur des profondeurs pour faire trempette, ouvrant la voie à des milliards de nageurs. Bonjour Coralie, je suis désolé de la faire, mais ça baigne ?
Mais ça baigne toi ?
Très bien. Je vais commencer quand même avec une petite question de contexte, puisque ton article paraît dans le numéro d'été de Science et Avenir, un numéro qui est tout entier consacré à l'eau. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à traiter le sujet de la baignade ?
En fait, je pensais aux gens qui allaient lire ce numéro sur l'eau. Et je me disais, bon, on sera en plein été, ils seront a priori au bord de la piscine, ou peut-être dans la piscine, à la mer. Je me disais, bon, il va faire chaud, donc c'est une période, voilà, on prend souvent des douches, voilà, des bains. Et je sais pas, l'idée m'est venue, je me suis dit, mais pourquoi en fait on est tellement attiré par l'eau ? Pourquoi est-ce qu'on y va dès qu'on a une occasion, soit juste... Voilà, pour se prélasser un petit peu, soit vraiment la natation, on va nager, c'est un sport, on va dans l'eau. Alors que c'est un milieu qui nous est... c'est compliqué d'être à l'aise dans l'eau, on n'est pas fait pour, le corps humain n'est pas fait pour. Et je me suis dit, je vais essayer de comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est je sais pas, il y a quelque chose de physiologique ou est-ce que c'est juste culturel ?
Et comment on commence les recherches sur un sujet comme celui-là ? T'as tapé dans Google ou sur Wikipédia, bain ?
Eh ben, j'ai googlé comme jamais. J'ai contacté plein d'experts pour avoir un peu leur avis, aussi bien du côté médical que du côté juste archéo. Et vraiment, j'avais que des réponses du côté archéo parce que c'est, voilà, on va le voir ensemble, mais c'est vraiment juste quelque chose de culturel. On fait ça depuis toujours et ça nous est resté.
Est-ce qu'on trouve justement des peintures rupestres ou d'autres témoignages archéologiques indiquant que nos ancêtres pratiquaient la baignade ? Alors là, je parle de baignade en termes de loisirs, mais ou, tout simplement l'immersion, quoi. Est-ce qu'ils allaient dans l'eau ?
Ouais. Pour autant qu'on sache, nos ancêtres allaient à l'eau. La preuve la plus ancienne qu'on ait, c'est un squelette de Néandertal. Donc, c'est pas exactement notre ancêtre, mais c'est un proche cousin dont on a retrouvé, en fait, en Italie, un squelette avec dedans une infection de l'oreille interne qu'on appelle l'otite du baigneur, qui arrive en fait quand on est sous l'eau. Et ça, c'est vraiment la première preuve que vraiment les gens avant nous se baignaient comme on le fait aujourd'hui. Après, il y a aussi des représentations. Les premières qu'on connaît, c'est au Néolithique. C'est dans ce qu'on appelle la Grotte des Nageurs. C'est un site d'art rupestre qui est sur le plateau de Jifal-Kabir. C'est dans le désert en Libye, en Égypte, pardon. Et ces peintures semblent montrer des nageurs en train de pratiquer la brasse. On les voit par au-dessus. Et plus tard, c'est en Égypte ancienne que là, vraiment, on voit très, très clairement des gens en train de nager le crawl. Donc, carrément, même plusieurs types de brasses aussitôt dans l'histoire.
J'imagine que ces individus pratiquaient la nage à des fins utilitaires pour la chasse, en l'occurrence la pêche.
Oui, c'est ça. En fait, nos ancêtres, ça remonte jusqu'aux grands singes avant nous, avaient déjà des notions de natation pour aller se procurer à manger. Parce qu'en fait, la mer et puis les abords de la mer, c'est une source constante de nourriture. Même quand il fait moche, par beau temps, tout le temps, il y a du poisson, il y a des fruits de mer, des crustacés, des choses à se mettre sous la dent. Et c'est d'abord pour ça qu'on est allé à l'eau, juste pour pouvoir manger, en fait.
Mais est-ce qu'on a, alors je ne vais pas dire une date précise, mais un horizon, est-ce qu'on sait à peu près quand Homo sapiens et peut-être son contemporain Néandertal se sont lancés à l'eau pour la première fois ?
Alors, on n'a pas de date précise. On sait qu'ils y sont allés, mais c'est impossible à dater. En tout cas, la première occurrence est aujourd'hui impossible à dater. Peut-être qu'on va faire des découvertes qui vont nous permettre d'avancer sur ce sujet, mais pas pour le moment.
On parle pour l'instant de la pêche, de la fonction très utilitaire d'aller dans l'eau, mais qu'en est-il de la détente ou tout simplement de l'hygiène ? C'est vrai que sur ce sujet, on a une image qui est associée du bain, c'est celle de l'Antiquité romaine.
Oui, exactement. Au fil du temps, on s'est en fait habitué à l'eau en allant y chercher à manger, et c'est devenu un milieu dans lequel on s'amuse, notamment dans les mers et les rivières, qui se prêtent vraiment bien à la baignade. On sait par exemple que à Rome, dans l'Antiquité, les gens se baignaient dans le Tibre. Et puis c'est devenu une pratique uniquement ludique, ces bains. C'est même devenu un véritable phénomène de société. Il y avait des dizaines de milliers de bâtiments thermaux à l'époque romaine où on se retrouvait. Alors, c'était très codifié. D'abord, on se retrouvait, on faisait du sport ensemble. Donc, on se dépense, on sue et tout. Et ensuite, on va dans ce qu'on appelle le gymnase. On se nettoie et il y a vraiment une pièce dédiée avec une vasque sur pied, dédiée à l'hygiène. Il y a des endroits où vraiment se plonger dans l'eau. Et c'était tellement un phénomène de société que c'est l'endroit où on se rencontre. C'est l'endroit où on papote. Il y a même des bibliothèques dans certains bains. Enfin voilà, c'était vraiment le cœur de la société à l'époque.
Mais c'est des bains, c'est pas des piscines comme on peut en avoir aujourd'hui chez les particuliers ou dans les piscines municipales.
C'est un peu entre les deux. Le but premier, c'est donc de se décrasser après le sport. On commence dans une pièce chauffée où il faut s'ouvrir les pores de la peau. Ensuite, on passe dans la pièce d'après. Là, on s'enduit d'huile et on vient racler tout ça avec un strigil. Le strigil, c'est comme un racloir incurvé, comme ça. Une sorte de grande boucle qu'on se passe sur la peau pour essayer de faire sortir les impuretés. Ensuite, c'est le bain d'eau chaude. Là, quand même, c'est le plaisir, c'est le délassement. Là, on peut un petit peu papoter et tout. Et à la fin, c'est le frigidarium, c'est un bain d'eau froide, moins marrant, mais l'idée, c'est de resserrer les pores, créer un choc thermique et voilà, finir le bain sur cette note un peu énergique, on va dire.
Et ce qui est assez étonnant, c'est que malgré tout ce soin apporté à un rituel extrêmement codifié, tu nous dis que ces bains étaient carrément crades, en fait.
Ouais, on associe souvent les bains à la romaine, à la propreté et tout. En réalité, aujourd'hui, on serait peut-être un petit peu horrifié de voir comment ça se passait. Il faut se dire que c'est quand même des nids à bactéries, à microbes. Tout le monde vient à l'époque avec ses maladies de peau. C'est quand même pas la médecine comme on la connaît aujourd'hui. Et puis, le raclage, il est peut-être pas parfait. Il y a peut-être de l'huile qui flotte dans certains bains. Enfin bon. Faut se dire que les Romains savaient pas ce que c'était les microbes et avaient pas les pratiques hygiéniques qu'on a aujourd'hui. Donc c'était peut-être pas non plus le temple de la propreté, quoi.
En parlant de temple et en évoquant peut-être notre ami Archimède, est-ce qu'on peut revenir sur une civilisation qui était peut-être moins portée sur le bain, mais qui l'a quand même, on va dire, expérimenté, puisque ça a donné lieu à quelques belles découvertes? Les Grecs. Quelle conception avait-on du bain chez les Grecs ou de l'eau, tout simplement?
Eh ben alors, comme souvent, les Romains ont un peu tout piqué aux Grecs. Donc les Grecs ont eu l'idée initiale, et puis les Romains l'ont un peu enjolivé, l'ont perfectionné. Donc les Grecs avaient un peu, ils avaient les mêmes pratiques, on va dire, que les Romains. Cette idée de d'abord faire du sport au gymnase, il y avait plusieurs sports possibles, l'athlétisme, il y avait le lancer de javelot, et ensuite on se rendait dans une pièce où il y avait une grosse vasque, et c'était là le moment où on se nettoyait, c'était le premier moment vraiment dédié à l'hygiène. Et après, c'est les Romains qui ont repris toutes ces idées, qui l'ont vraiment poussé avec ces différentes pièces, tout ce processus très codifié, mais oui, à l'origine, c'est une idée qui vient des Grecs.
Ouais, on passe de l'épure à quelque chose de très sophistiqué, voire d'artificiel avec les Romains, quoi.
Oui, tout à fait. Ou en plus, l'hygiène est plus au cœur de la pratique. On y va pour se parler, se rencontrer, parfois se montrer. C'est une pratique sociale aussi, quoi.
Donc, on a une eau qui est un lieu de rassemblement, un peu à l'image du forum. Mais avec l'avènement du christianisme, cette symbolique autour de l'eau va considérablement changer, on peut le dire.
Avec l'avènement du christianisme, il y a vraiment une tombée en désuétude de l'eau comme milieu. Vraiment, on la repousse, on en a peur, parce que dans le christianisme, il n'y a plus du tout de divinité liée à l'eau. Tout ce qui était Poséidon, etc., c'est plus du tout dans les esprits. Les nymphes chez les Grecs, Neptune chez les Romains, tout ça, ça appartient au passé. Il y a un seul type de divinité qui reste, c'est la sirène. Mais bon, c'est pas des créatures très très sympathiques. Elles ont pas d'âme. Elles attirent les hommes vers l'eau, les font courir à leur perte. Donc c'est un élément attirant, mais une source de danger. Alors voilà, au Moyen-Âge, les villes se forment autour de l'eau, mais ça représente quand même une menace. On sait que c'est par les eaux que arrivent les bateaux ennemis. Les Vikings sont arrivés jusqu'à Paris, justement en remontant la Seine. Donc ça, les gens l'ont bien à l'esprit et ils craignent complètement de s'immerger dans l'élément liquide. Ils ont peur des maladies, que ça puisse s'introduire par les pores de la peau quand elle est ouverte à cause de l'eau chaude. Donc c'est aussi un moment, le Moyen-Âge, où l'hygiène n'est plus trop au centre de la vie. On sait que c'est un moment où les gens étaient assez sales, le Moyen-Âge. Et la baignade est quasiment abandonnée, quoi.
Et pourtant, moi, j'ai l'image. Tu vas me dire que j'ai peut-être une image très hallucinée de l'histoire, mais je vois au cinéma, les baptêmes, ils ont lieu systématiquement dans des cours d'eau. Alors effectivement, après, l'Église va sophistiquer les choses et t'as plus besoin d'aller te baigner dans la Seine pour être baptisé. Mais j'avais ce côté un peu la purification à travers l'immersion. Est-ce que c'est pas contradictoire avec cette eau qui est perçue comme un danger, tu l'as dit toi-même, une menace?
Ben peut-être la vie de tous les jours, c'est la menace, mais dans la religion, l'eau sainte, oui, c'est l'eau qui purifie. Parce que le christianisme, comme les trois monothéismes, sont nés dans une région très désertique, le Moyen-Orient, où vraiment, il n'y a pas d'eau. C'est aussi probablement pour ça qu'il n'y a pas de divinité associée à l'eau. Et la seule forme d'eau qui reste, ben, c'est cette eau sainte qui bénit, qui purifie, comme tu dis. Mais l'eau bénite, elle est à l'église, elle est dans des structures bien définies qui n'ont vraiment rien à voir avec le fleuve qui coule à côté de ta maison et qui vraiment est juste un danger pour le Pékin moyen au Moyen-Âge, quoi.
Donc il va s'en suivre une longue période de disgrâce, et quand je dis longue, c'est plusieurs siècles, mais après ça, quand même, le bain opère en quelque sorte, on peut le dire, un retour en grâce lors de la Renaissance. Et là, c'est plus tellement le bain façon romaine, mais c'est plutôt l'eau de mer qui va sonner, on va dire, le retour de l'eau.
Oui, exactement. C'est vraiment exclusivement la mer, les océans. Parce qu'à la Renaissance, donc l'Europe remet un peu à l'honneur toute la littérature, la philosophie de l'Antiquité gréco-romaine. Donc on relit plein de textes, et notamment d'anciens traités médicaux ou des textes sur la santé. Et alors, il y a un médecin à Brighton, en Grande-Bretagne, Richard Russell, qui habite un simple village de pêcheurs au bord de la Manche, Brighton, et qui s'intéresse aux propriétés de l'eau de mer. Et lui, il commence à recommander les bains dans la mer pour traiter certaines maladies, comme les ganglions lymphatiques hypertrophiés. Bon, c'est très précis, mais en gros, les maladies liées à la respiration, aux poumons. Et voilà, il recommande la consommation d'eau de mer comme moyen thérapeutique vraiment. Et c'est là que renaît cette mode des bains de mer. Ça se répand au fur et à mesure jusqu'au 19e siècle, où là vraiment, même Napoléon III et l'impératrice Eugénie, ils allaient à Biarritz pour se soigner, je mets plein de guillemets, mais parce que voilà, on prêtait donc des vertus à l'air marin. Et c'est le début de toutes ces villes sur la côte chez nous, Dieppe, Trouville, Deauville, Étretat, qui trouvent leur essor parce que la baignade se médicalise.
On en est encore à un usage qui est autour de la santé. On est loin encore de la baignade façon loisir.
Oui, on n'y va pas trop pour se marrer, quoi. C'est pas ludique. C'est vraiment pour se refaire une santé. C'est plus après la révolution industrielle qu'on commence à y aller juste pour le plaisir. À ce moment-là, il y a pas mal d'épidémies, le choléra, le typhus, la dysenterie qui s'enchaînent. Et en repensant au modèle des bains romains, il y a la ville de Liverpool qui ouvre la première Bath and Wash House. Alors le concept est un peu exotique, on va dire, aujourd'hui, mais en gros, c'était des bains publics où on peut aller se laver le corps, mais aussi laver son linge. Et c'est une pratique qui se développe pendant toute la Grande-Bretagne, les Bath and Wash House, en gros des lieux dédiés à l'hygiène pour essayer de contrer un petit peu ces épidémies qui se propagent. Et là, en parallèle, il y a aussi la nage qui retrouve un peu son essor en tant que sport. Voilà.
Et qu'est-ce qui explique qu'on va se mettre à nager de façon vraiment intense et que la nage va devenir un sport à part entière?
Et ben, c'est les premiers Jeux Olympiques modernes, en 1896 à Athènes, qui font qu'on commence à construire des piscines au XXe siècle. Elles comprennent deux bassins. Alors, il y a un bassin pour les classes supérieures et un pour les classes inférieures. Les classes supérieures allaient dans un bassin, les autres dans l'autre. Ou alors, c'était, il y avait deux sessions de baignade. La première, c'était pour les riches, qui avaient une eau propre. Et ensuite, la deuxième session, c'était les gens plus pauvres qui allaient se baigner dans l'eau déjà souillée par la première session de gens plus aisés qu'eux. Mais c'est là qu'on commence à aller dans l'eau de façon ludique parce que la reprise des JO, à partir de la fin du 19e siècle, remet la baignade fun, quoi, au goût du jour dans la société.
Et comment on passe de cette configuration à la propagation de la piscine particulière, en quelque sorte ?
Bah ça, c'est au cours du XXe siècle, avec l'accès à la propriété, le développement des maisons, etc. On commence à avoir sa propre piscine, juste parce que de façon privée, on veut avoir accès à son propre bassin. Et ça va se développer au XXe siècle.
Pour clore, Coralie, j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu si tu as eu une surprise sur ce dossier que tu avais toi-même proposé à Mathieu, ton rédacteur en chef.
Oui, non, moi, la grosse surprise que j'ai eue, c'est vraiment que toutes ces réponses aillent dans le même sens. C'est que c'est une pratique culturelle d'aller se baigner et que la natation, on l'est apprise par la force des choses depuis qu'on est humain quasiment. Et donc, il n'y a rien qui nous pousse vers l'eau, qui soit un petit peu mystique ou, je ne sais pas, une explication d'un point de vue de l'évolution. Parce que c'est vrai que voilà, on n'a pas de branchies, on n'a pas les pieds palmés, c'est pas hyper évident d'être à l'aise dans l'eau de prime abord. Et en fait, c'est juste parce que nos ancêtres ont faisait comme ça, et leurs ancêtres aussi, jusqu'à remonter au grand singe. Et c'est peut-être pour ça que vous écoutez ce podcast au bord d'une piscine, voilà.
Donc c'est ça, c'est la romantique en toi qui a été peut-être un peu déçue par le côté relativement, peut-être pas plat, mais assez classique de la réponse qui a été apportée, quoi. Une réponse purement historique.
Ouais, c'est terre à terre. On a toujours fait comme ça et du coup, on continue de faire comme ça, quoi.
Une réponse terre à terre pour justifier le saut dans le grand bain. Moi, je trouve que c'est une excellente conclusion. Merci beaucoup, Coralie. Quant à moi, évidemment, je vous souhaite d'excellentes vacances. Mais je vous dis aussi rendez-vous dans 2 semaines pour envoyer de la science dans tous les sens.
On ne va pas se quitter comme ça. Vous avez aimé cet épisode ? Sportif, généraliste, sexo ou scientifique, varié mais toujours bien informé. Découvrez les autres podcasts de la rédaction 20 minutes sur votre application d'écoute préférée ou directement sur podcast au pluriel.20minutes.fr. Et merci de nous avoir écoutés.